Histoire du loup, histoire de loup au pluriel. Aujourd'hui, nous nous intéressons au destin d'un animal qui occupe une place à part dans le bestiaire enfantin.
Être et savoir, Louise Touret.
Mon école, enfant, était tout près d'un bois appelé la Vallée aux Loups. Beaucoup de noms de lieux en France font référence à cet animal. Alors mon bois n'était pas une vallée, elle n'hébergeait aucun loup depuis fort longtemps. Mais il portait la mémoire, ce bois, la mémoire mystérieuse d'un temps où les loups étaient près des hommes et les effrayaient. Et d'ailleurs, on m'avait bien raconté qu'avant, les loups mangeaient les enfants et les petites filles en particulier. La place du loup dans notre imaginaire et notre culture, essentiellement dans la culture enfantine, demeure importante. Dans la littérature jeunesse, les contes, les fables, l'animation, le loup est là et bien là. Mais en fait, cet animal endosse au fil de l'histoire différents rôles. D'un côté, il représente la peur, bien sûr, une peur qu'on mobilise pour apprendre la prudence aux plus jeunes. De l'autre, le loup des fables, fables qui circulent tant dans l'espace scolaire, et on pense aussi au loup du roman de Renard, et bien ce loup, il est arrogant, menaçant et finalement bien bête. Et puis le loup peut être très drôle, il continue de l'être dans les histoires d'aujourd'hui, il est même devenu sensible sous le trait d'auteur jeunesse contemporain et par là attachant. Enfin, la louve n'est-elle pas une figure allégorique de la maternité? Et les enfants loups peuplent encore l'imaginaire collectif, de Romulus et Rémus aux enfants loups de l'animation japonaise, en passant par Mowgli du livre de la jungle, preuve que ces histoires sont encore racontées aujourd'hui. Alors, de quelle part de nous-mêmes parle-t-on quand on parle du loup? Cet animal qui s'anthropomorphise si peu demeure-t-il le symbole de la bestialité, celle de l'homme en premier lieu, ou est-il devenu le symbole de la nature qu'on a tant éloignée de nous? Deux invités que je suis ravie d'accueillir sont avec moi aujourd'hui pour parler du loup, l'historien Michel Pastoureau et l'auteur et créateur du célèbre loup Loulou, Grégoire Solotareff. En fin d'émission, la leçon de choses de Sophie Bobert. Cette semaine, le journaliste et écrivain Ferhat Alani nous raconte son enfance et la relation complexe qu'on peut entretenir à sa double culture.
J'ai découvert plus tard qu'il existait ce syndrome, le syndrome de l'imposture ou de l'imposteur. C'est ce sentiment de culpabilité, notamment encore plus quand on est de double culture. C'est que, en fait, j'aurais dû naître en Irak.
Et avec Ferhat Alani, retour sur les années 90, quelques étés entre Bagdad et Fallujah, entre embargo, liesse familiale et armes qui circulent. Ferhat Alani vient de publier Le Parfum d'Irak et on le retrouve en fin d'émission.
Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient, à jeun, qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Oh !
Hein ?
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Dit cet animal plein de rage, tu seras châtié de ta témérité.
Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa poisson.
Tu la troubles ! Reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé.
Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau. Je t'ai encore ma mère.
Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
Je n'en ai point.
Bah là, c'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers, vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès.
Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, c'est Louis de Funès en tout cas, qui lisait cette fable de La Fontaine. Fable de La Fontaine qui ont été offertes aux 800 000 élèves de CM2 en juin dernier par le ministère de l'Éducation nationale. Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Ces fables, elles circulent encore énormément. Vous le soulignez dans votre dernier ouvrage, Le Loup, une histoire culturelle. C'est publié aux éditions du Seuil. Je précise que vous êtes historien des représentations, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, chaire d'histoire de la symbolique occidentale. Je crois que c'est vraiment de cela dont il va être question aujourd'hui, la symbolique du loup. Avec vous, un auteur jeunesse, comme on dit, Grégoire Solotarev, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur et illustrateur, notamment de la série des Loulous. Alors c'est Loulou, l'incroyable secret Loulou à l'école des loups qui ont été publiés dans les années 2010 à l'école des loisirs. Et vous venez de publier Le chat beauté, et ça s'écrit comme la beauté. Et puis Trois fantômes, toujours à l'école des loisirs. Si on parle des fables Michel Pastoureau, eh bien on remonte forcément à l'Antiquité puisque ces fables ont une très longue histoire. Elles sont d'ailleurs depuis longtemps racontées aux enfants et aux écoliers.
Oui, le loup et l'agneau qu'on a entendu tout à l'heure est déjà présent dans le recueil attribué à Ésope, dont on pense qu'il vivait quelque part vers le 7e siècle avant notre ère. On la retrouve chez les fabulistes latins à l'époque romaine, puis tout au long du Moyen-Âge dans des recueils de fables différents. La Fontaine s'en est emparée. Jean-Jacques Rousseau, d'ailleurs, est tout à fait hostile dans son livre « Les Mille » à ce que l'on enseigne les fables aux enfants, argumentant qu'ils ne comprennent rien à ce que veulent dire les fables. C'est vrai que La Fontaine n'est pas accessible par sa langue très facilement aux enfants. Rousseau a cette phrase merveilleuse « Qu'est-ce qu'un phénix des hôtes de ces bois ?» à propos du corbeau et du renard.
C'est peut-être aussi la langue qu'on apprend par les fables, mais c'est vrai qu'au départ, elles ont une fonction d'édification des jeunes consciences.
Oui, et de mémorisation. Déjà, à l'époque romaine, les écoliers apprenaient des fables et on a continué de le faire tout au long du Moyen-Âge. Donc, il y a une fonction pédagogique et c'est tout à fait légitime qu'aujourd'hui, on continue de le faire. Dans ma génération, on apprenait par cœur un assez grand nombre de fables, pas seulement de La Fontaine, et puis quand on apprenait les langues étrangères, aussi des fables en anglais, en allemand, en italien, je suis passé par là.
Ce loup antique dont je parlais, il est aussi présent dans la mythologie à tel point que des lieux y font référence. Alors je parlais de la vallée au loup, mais il y a aussi un bois sacré à Athènes qui donne son nom, le Lucayon, qui donne son nom au Michel Pastoureau.
Au lycée, c'est l'endroit près d'Athènes où Aristote a enseigné, puis a créé une institution qui se distinguait de l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, et ça a donné son nom à nos établissements d'enseignement. Donc le loup a donné son nom à un bois sacré où on rendait culte à Apollon, puis par extension donc à une institution d'enseignement et donc à nos lycées. Dans le toponyme, comme vous l'avez dit, le loup est énormément présent partout en Europe. Si on faisait un bestiaire des noms de lieux, je crois que ce serait lui, la vedette du monde animal, présent dans les noms de lieux, ce qui en dit beaucoup sur son histoire culturelle. Et puis dans les noms de personnes aussi, on a beaucoup de restes de loups, soit du point de vue phonique, on est arrivé à loup, soit par comparaison, soit surnom, des gens qui ont un nom commençant par loup, se terminant par loup, sont assez nombreux.
Dans les noms de famille, puis il y a aussi un saint loup.
Parce un que loup, ça, c'est évêque de Troyes, oui, tout à fait.
C'est aussi important. Dernier point sur l'Antiquité, j'ai parlé des loups, évidemment, on pense à Rome, à Romulus et Rémus, c'est une figure très importante. Et vous dites, Michel Pastoureau, chez les Romains, la louve, et c'est souvent le cas avec le loup, elle a deux facettes en fait différentes. D'un côté, c'est la maternité, et puis d'un autre côté, c'est aussi le vice, la louve, la maman et la putain.
Oui, tous les animaux, du point de vue symbolique, sont ambivalents. Il y a des bons et des mauvais aspects. Tantôt les bons aspects l'emportent, tantôt les mauvais. Donc le loup n'échappe pas à la règle. Il y a un bon et un méchant loup. Et pour la louve, c'est pareil. Et à Rome, Lupa, ça peut être la louve nourricière, liée à la fondation de Rome par Romulus. Ça peut être aussi la prostituée, Lupa, la femme de mauvaise mie, qui a donné en français, d'ailleurs, ce mot. Notre vocable lupanar, un endroit de débauche, de prostitution. C'est toujours comme ça, avec les animaux, avec les végétaux, avec les couleurs, du point de vue symbolique. Il y a le positif et il y a le négatif.
Michel Pastoureau, dans l'imaginaire contemporain, il me semble que le loup est très associé à une période de l'histoire, période dont vous êtes spécialiste, le Moyen-Âge.
Oui, il y a des Moyen-Âge, hein, et la peur du loup en Europe, ça va, ça vient. Il y a des époques où on a peur du loup, d'autres où on n'a pas peur, puis on a de nouveau peur. Par exemple, dans l'Antiquité, le loup est un grand ennemi des bergers, des troupeaux, mais on n'a pas tellement peur du loup. Puis pendant le haut Moyen-Âge, la peur du loup s'installe en Europe, très grande peur, parce que les loups s'approchent des villages, il n'y a plus d'autorité centrale. Puis au cœur du Moyen-Âge, au Moyen-Âge central, cette peur disparaît, on se moque du loup, d'où le loup du roman de Renard, Isengrin, qui est un loup complètement ridicule. Et puis la peur revient à la fin du XVe siècle, le climat se dégrade beaucoup, tout le monde a faim, tout le monde a peur, les loups entrent dans Paris en 1421, et cette peur du loup va durer jusqu'au milieu du XIXe siècle, partout en Europe occidentale. Donc c'est surtout une peur de l'époque moderne. Au Moyen-Âge, on a davantage peur du diable ou du dragon, éventuellement.
Et parfois, d'ailleurs, le loup et le diable sont associés.
Le loup fait partie du bestiaire du diable, en compagnie d'autres animaux nocturnes ou à pelage sombre. Il n'est pas tout seul, oui.
Parce qu'il est noir, hein, le loup, dans ses représentations. D'ailleurs, comme Loulou, votre loup, Grégoire Solotareff, qu'est-ce qui vous a donné envie, à vous, auteur jeunesse, de faire d'un jeune loup? Loulou, on pense qu'il est jeune parce qu'il va à l'école, hein. Oui. Et puis qu'il a un ami qui est très présent dans sa vie, qui est un lapin, qui s'appelle Tom. Qu'est-ce qui vous a donné donc envie à vous de vous emparer de cette figure du loup ?
J'avais beaucoup de livres de La Fontaine, illustrés par différents illustrateurs quand j'étais petit. Je m'en inspirais beaucoup pour dessiner. Et c'est une figure qui me plaisait. Et puis, c'est pas analysé, évidemment, ces choses-là. Mais c'est aussi peut-être que c'est la forme sauvage du chien qui est l'ami de l'homme. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça que c'est une figure aussi importante. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, bien sûr. Loup et chien sont cousins. Il y a pas mal de débats, d'ailleurs, pour savoir quand exactement l'homme a domestiqué le loup pour en faire le chien. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Est-ce que tous les deux ne descendent pas d'un ancêtre commun? C'est plutôt les idées actuelles. Et pourquoi l'homme a domestiqué le loup pour faire le chien? Est-ce que c'est pour garder les moutons ou est-ce que c'est pour en faire un compagnon de chasse? Donc, on débat pour savoir quel est le plus ancien animal domestique. Est-ce que c'est le chien ou est-ce que c'est le mouton? Et puis, certains zoologues soulignent que, en fait, c'est l'abeille parce que c'est l'animal qui a été le domestiqué le plus anciennement, mais ça n'est qu'une semi-domestication.
Et concernant la couleur, alors je disais le loup de Grégoire Solotareff, comme souvent dans la littérature jeunesse et dans ses représentations, il est noir dans les représentations depuis très longtemps. Or le loup dans la nature, il n'est pas du tout forcément sombre, il n'est pas noir, et souvent il est gris. Alors le vôtre, il est noir-gris, hein, Grégoire Solotareff.
Oui,
mais cette symbolique des couleurs, elle est très importante, et très importante aussi dans l'époque médiévale, Michel Pastoureau.
Oui, parce que dans les sociétés anciennes, pour faire une symbolique des couleurs, on ne dispose que de trois couleurs au départ. Blanc, rouge, noir sont les trois couleurs qui comptent.
Comme dans le petit chaperon rouge?
Comme dans le petit chaperon rouge. Donc elles comptent beaucoup plus que les autres. Alors le loup, il n'est pas blanc, il n'est pas rouge dans l'imaginaire. Donc il est foncé, il est sombre, donc il est noir. Et même si les loups véritables sont roux, sont gris, sont tachetés, sont bruns, dans l'imaginaire, il ne peut être que noir, et les animaux noirs, bien sûr, prennent place dans le bestiaire du diable, à commencer par le corbeau, qui en est la vedette, avec l'ours. Et il est resté jusqu'à aujourd'hui. Mais l'imaginaire, ça n'est pas le contraire de la réalité. C'est une réalité d'un autre type qu'il faut étudier comme tel.
C'est la réalité des représentations qui bien parvient sûr jusqu'à nous, grâce en particulier au travail des historiens comme vous. Un autre thème est abordé, et il est présent à la fois dans l'histoire des loups, mais aussi dans la littérature jeunesse, c'est la faim. Parce que le loup, c'est un animal qui a faim, et aussi à une époque où les hommes eux-mêmes ont faim. On voit que le loup, dans le roman de Renard, par exemple, alors, dire que le roman de Renard est encore beaucoup étudié à l'école, par les collégiens, presque par tous les collégiens. C'est un animal qui a faim et qui est mu par cette grande faim.
Oui, c'est un roman de la faim, on l'a dit depuis longtemps, F.A.I.M. Tout le monde a faim, les hommes, les animaux, et les histoires de loups en Europe occidentale et la peur du loup, c'est toujours lié à des problèmes de dégradation du climat, d'épidémie, de famine, tout le monde a faim, y compris les animaux, les loups s'approchent des villages et entrent même dans les villes jusqu'en plein 19e siècle. C'est un animal qui mange beaucoup quand il peut manger parce que on a l'impression qu'il ne sait pas quand il pourra manger de nouveau. Donc non seulement il est rapace et vorace, il mange beaucoup, mais il mange jusqu'au bout. Quand il a une proie, il ne laisse absolument rien sur les os en matière de chair, ce que d'autres animaux ne font pas. Donc en effet, il y a autour du loup tous ces problèmes de la faim, de la famine, et il a dévoré des êtres humains, y compris des bergères et des petites filles. Il faut pas s'en cacher à
certaines. Vous dites ça parce qu'aujourd'hui, les défenseurs du loup disent que le loup ne s'attaque jamais aux hommes.
Voilà, le loup ne s'attaque pas à l'être humain. Peut-être les loups d'aujourd'hui, en effet, mais les loups d'autrefois s'attaquaient vraiment aux humains. Et je suis désolé qu'un de mes collègues historiens, spécialiste du loup sous l'Ancien Régime, qui a publié plusieurs livres avec son équipe de recherche sur justement les attaques de loups contre les êtres humains, était pris à partie par des zoologues, des éthologues, des défenseurs de l'environnement qui soulignent que le loup n'attaque jamais l'être humain et donc qui ont accusé les historiens de mentir et les documents historiques de se tromper. Non, c'est raisonner comme ça, c'est montrer qu'on n'a rien compris à ce qu'était l'histoire et c'est juger le passé à l'aune des savoirs et des sensibilités du présent, ce qui est absurde.
Et à vos yeux, c'est parce qu'il attaquait les êtres humains qu'il est devenu un animal symbolique de la peur. Et on revient aux histoires qu'on raconte aux enfants, parce que ces histoires, elles servent aussi à faire peur aux enfants, à les mettre en garde.
Oui, ça dépend des époques, mais c'est un animal qui fait peur et que l'on peut pendant très longtemps rencontrer au coin d'un bois. Moi, quand j'étais enfant, dans ma famille, on parlait pas trop du loup, j'avais peur du cochon noir, parce que avec mes parents, on avait rencontré un sanglier, non pas dans un bois, mais dans un pré, je devais avoir 3 ans, et cette bête m'avait terrifié, et donc, moi, dans mon imaginaire, la peur, c'était le cochon noir.
Cela dit, un animal qu'on rencontre en vrai fait beaucoup plus peur qu'un animal, enfin ça dépend pour quel genre d'esprit, mais peut faire beaucoup plus peur qu'un animal dont on lit les aventures dans un livre, Grégoire Solotareff. Dans sa première aventure, Loulou, vous tenez à nous dire qu'il ne va pas faire peur, enfin il peut faire peur, mais c'est tout de suite le sujet en fait. Qu'est-ce qu'on fait de cette peur et est-ce que soi-même on accepte de faire peur et comment on surmonte ça? C'est-à-dire avec un ami, par exemple.
Voilà, c'est, ou un frère, parce qu'en fait, c'est une histoire de frère, de grand frère, de petit frère. Et au fond, c'est la force physique. Et donc, comment appréhender la force physique quand on est un enfant? Et donc, voilà, ce sont des histoires qui représentent, en fait, tous les problèmes qu'ont les petits enfants par rapport aux adultes, par rapport aux enfants plus grands
et par rapport aux pulsions.
Et par rapport aux pulsions, c'est-à-dire que de la part du loup, vous voulez dire, de la part du loup. Alors, effectivement, par essence, il fait peur. Et puis, en plus, un enfant de l'âge à peu près qui va lire ce livre, il sait que, enfin, il a déjà entendu parler du loup. Et c'est par définition un animal qui fait peur. Donc, casser cette image, c'est plus amusant que de la conforter. Et donc, l'idée de faire un loup qui est finalement, qui ne sait pas lui-même qu'il est loup. Donc, il n'a pas lui-même la notion qu'il doit faire peur. Et donc, il vit normalement et il ne sait pas que sa fonction est de faire peur.
Et il va en jouer.
C'est tout un
jeu dans les différents.
Mais il en joue.
Dans les différents albums. Est-ce que pour un petit enfant, il faut d'abord, et vous l'avez un petit peu dit, savoir que le loup fait peur pour pouvoir ensuite en rire dans un deuxième temps, Grégoire Solotareff?
Alors, je ne sais pas. Je dirais que. Évidemment, la peur dans une fiction, c'est un questionnement. Donc, ça sert à faire avancer les choses. une histoire où il se passe rien, c'est moins intéressant. Donc la peur est un ressort en fait de la fiction, et donc jouer avec ça, et quand on est petit, quand on aura 3-4 ans comme ça, il s'agit pas de faire vraiment peur, il s'agit de faire semblant de faire peur.
On joue avec la peur. Là où on joue peut-être un petit peu moins avec la peur, c'est avec les histoires d'hommes qui se transforment en loups, le fameux loup-garou. C'est Michael Jackson que vous aurez reconnu, Thriller. Les enfants des années 80 ont eu très très peur, enfin certains, enfin moi, en écoutant cette chanson et surtout son introduction. Mais les histoires de loup-garou, évidemment, elles remontent à très très loin, Michel Pastoureau.
Oui, le loup est un animal qui a à voir avec la métamorphose ou le déguisement. Ça marche dans les deux sens, des hommes ou des femmes qui deviennent loups ou louves, ou des loups qui se déguise en être humain, en berger par exemple, pour s'introduire à l'intérieur du troupeau.
Qui montre pas de blanche.
À toute époque, on a des histoires de ce genre, jusque dans les contes modernes, contes de Perrault, contes de Grimm et ainsi de suite. Les loups-garous sont plus présents quand même au cœur du Moyen-Âge. On a pas mal de textes qui en parlent. L'idée, c'est que certains hommes, plus que femmes, hommes sont victimes d'une malédiction et tant de jours par semaine ou par mois, la nuit, ils se transforment en loups-garous, en général en quittant leurs vêtements. Et s'ils ne retrouvent pas leurs vêtements, ils sont condamnés à rester loups. On a un lait célèbre de la fin du XIIe siècle, le lait de Bisclaveret, dû à une femme, Marie de France, qui raconte comment un homme trompé par sa, abusé par sa femme, qui a un amant, cache ses vêtements et lorsqu'il est loup-garou, il ne peut plus redevenir humain. C'est une histoire qui a eu beaucoup de versions et d'imitations par la suite. On retrouve ça au moment des histoires de sorcellerie, qui sont pas tellement des histoires médiévales, mais des affaires de l'époque moderne. Oui. Les sorciers, c'est le XVIe, le XVIIe siècle, plus que le Moyen-Âge. Et un certain nombre de personnages, hommes ou femmes d'ailleurs, sont accusés d'être loup-garou. Il y a même un juriste démonologue célèbre à la fin du XVIe siècle, Jean Bodin, qui soutient que les loups n'existent pas, que tous les loups qui circulent en Europe sont en fait des loups-garous et qu'il faut tous les tuer.
Et là, c'est pas des histoires d'enfants hein, à cette époque-là.
Non.
C'est très réel dans la tête des gens.
L'Europe vit au rythme des sorciers et de la sorcellerie entre la fin du XVe siècle et le début du XVIIIe siècle. Ça a une ampleur considérable, aussi bien dans l'Europe catholique que dans l'Europe protestante. On croit toujours que ça se passe au Moyen-Âge. Je suis toujours horrifié quand j'entends dans la presse presse aujourd'hui l'expression « on se croirait revenu au Moyen-Âge », alors que c'est certainement pas au Moyen-Âge que les populations européennes ont été les plus malheureuses, c'est au XVIIe siècle.
C'est un médiéviste qui parle. Alors moi, je me suis contentée de dire que ces histoires de loups-garous remontaient à très loin dans l'histoire. Vous faites également mention d'histoires de transformation d'hommes en loups dans l'Antiquité, Michel Pastoureau. Alors il y a ce couple aussi, loup et sorcière. Comment vous vous expliquez que les loups et les sorcières, aujourd'hui, ils n'existent plus que dans les contes et on n'en parle plus qu'à une catégorie de personnes, les enfants?
Probablement parce que les peurs d'aujourd'hui se situent ailleurs. Autrefois, les peurs se limitaient au champ de la vie quotidienne et des terroirs qui étaient fréquentés. Donc c'était 99% de la population était faite de paysans. Donc l'univers, c'était le champ, le bois, l'orée du bois à la tombée de la nuit. C'est toujours un couple espace-temps extrêmement dangereux. C'est là qu'apparaissent les bêtes étranges, les créatures étranges, les sorciers, les loups-garous, les êtres de la nuit. Le loup a beaucoup à voir avec la nuit, hein. C'est un nocturne, et avec la vue. Il a d'abord un regard extrêmement perçant, une ouïe extrêmement fine. Son nom vient probablement du racine indo-européenne qui signifie luire, briller.
Qui est en fait le contraire de noir, sa couleur. C'est tout à fait étonnant, je l'ai découvert en vous lisant. Cette étymologie.
Oui, mais dans les sociétés anciennes, il y a deux noirs. Hein. Il y a le noir qui brille et il y a le noir qui ne brille pas. Et l'anglais black, par exemple, se rattache à une famille de mots qui est la même que blanc, blanc dans les langues germaniques. Et black, c'est la même étymologie. C'est le noir ou le blanc qui brille. Hein. Ça veut dire brillant plutôt que telle ou telle couleur. Donc le loup, c'est un animal de lumière. C'est un être de lumière. Locos en grec. C'est le nom du loup, mais c'est aussi une racine de mots qui se rattache à cette brillance, d'où le latin lupus, et puis notre français loup.
Et ce loup qui nous transforme, ou nous qui nous transformons en loup, vous l'évoquez, Grégoire Solotareff, dans un de vos albums qui s'appelle Le Masque, et on ne prononce pas le terme de loup-garou, mais si on met des oreilles de loup ou la peau d'un loup, on se transforme. Ce sont des enfants qui se transforment dans cet album.
Oui, c'est à nouveau une histoire de peur et de fausse cruauté. On parlait de cruauté, mais quand on écoute la fable de La Fontaine qu'on a entendue tout à l'heure, c'est une cruauté extrême, puisque finalement le loup finit par manger l'agneau à la fin. Et aujourd'hui, une histoire comme ça, ça sera impossible.
À raconter aux enfants.
Aucun éditeur n'accepterait une histoire comme ça. Alors qu'on l'enseigne, c'est assez curieux parce que ça fait partie du patrimoine. Et donc, du coup, on l'enseigne. Et c'est vrai qu'il y a une très belle langue, etc. Mais en fait, le contenu est terrible.
Mais vous aussi, qui êtes auteur jeunesse, vous écrivez des histoires beaucoup plus réflexives dans Le Masque. Les enfants qui sont mangés par le loup ressortent du ventre du loup. Et ce sont eux qui vont faire peur, puis réfléchir à ce que faire peur signifie.
Oui, c'est vrai, mais ce sont des images où on voit les personnages à l'intérieur du loup. Donc on sait, c'est comme si on disait que ça n'existait pas.
Et ce loup, Grégoire Solotareff, il va aussi prendre en charge l'expression de nos émotions et pas seulement de la peur, parce que cette relation qu'il a avec son frère, entre guillemets, lapin, est faite d'incompréhension parfois qu'il va falloir surmonter. Et ces histoires, elles parlent aux enfants, mais pas seulement.
Tu me l'avais acheté à Noël. Tu peux me la lire?
Tu connais par cœur.
Oui, mais je voudrais que tu me la lises.
Je t'ai déjà raconté 100 fois. Tu vas ricaner.
Non.
Il était une fois un lapin, Tom, qui n'avait jamais connu de loup. Et un jeune loup, Loulou, n'avait jamais connu de lapin. Tom et Loulou devinrent de vrais amis. Loulou grandit, Tom lui apprit à jouer aux billes, à lire, à compter et à pêcher pour se nourrir. Le loup a appris à Tom à courir très très vite, bien plus vite que les autres lapins. Le loup a appris également à Tom la peur. Tantôt il joue à peur du loup, tantôt il joue à peur du lapin. Un jour, le loup effraya tellement Tom que celui-ci se précipita dans son terrier et décida de ne plus en sortir. La nuit venue, Tom rêva que le loup était énorme, noir et rouge, et qu'il le mangeait. Le loup crut que son amitié avec Tom était finie. Il s'en alla tristement dans la montagne. Une nuit, le loup se fit attaquer par des loups qui crurent de loin qu'il était un lapin. Cette nuit-là, le loup connut la peur du loup. Loulou revint voir Tom. Il lui dit qu'il avait compris, qu'il ne lui ferait plus jamais peur. Et Tom sortit de son terrier.
Voilà, c'est Loulou, lu par Romain Duris dans le film Dans Paris de Christophe Honoré, film qui est sorti en 2006. C'est donc une relation fraternelle. Grégoire Solotareff, qu'avez-vous pensé quand vous avez entendu votre histoire lue par des adultes dans un film pour adultes?
Alors, d'abord, j'ai découvert, j'étais pas au courant. Et donc, ça m'a un peu surpris, effectivement. Mais je me souviens pas maintenant comment ça s'intègre dans le film exactement. Je me souviens pas pourquoi est-ce que cette histoire, plutôt qu'une autre, c'est une histoire de frère. Mais j'étais très amusé. Ça m'a plu d'abord.
C'est la fin du film.
Ah oui.
Et le fait que ce loup finisse par aujourd'hui devenir un personnage si sensible, n'est-ce pas, parce que le loup finit par toujours par exprimer une part de nous sur laquelle on n'a pas de prise. Enfin, est-ce que c'est une analyse qu'on peut faire? Ce loup qui faisait peur, qui avait faim aujourd'hui, il pleure. Qu'est-ce que ça vous inspire, Michel Pastoureau?
C'est un phénomène d'anthropomorphisme. Donc, on projette sur le monde animal des choses qui concernent l'espèce humaine. C'est un moyen de souligner aussi que la frontière est floue entre l'homme et l'animal, que l'homme est un animal parmi d'autres, d'un genre particulier, mais sans plus. C'est ce que disait déjà Aristote. Donc, ça n'est pas tout à fait nouveau. Et puis, c'est un moyen de rappeler que les extrêmes se touchent. Donc, la bête sauvage la plus cruelle, la plus rusée, la plus vorace, peut-être un être sensible, un être délicat, un être qui souffre.
Et tout est double une fois de plus, c'est-à-dire que là où le loup représente ce qu'il y a de pire chez l'homme, hein, l'homme est un loup pour l'homme, finalement les défenseurs du loup veulent voir en loup des qualités presque humaines de sensibilité.
Oui, on le voit bien sûr dans un texte comme Le Livre de la Jungle, avec une société lupine qui ressemble, du point de vue de son organisation, à la société humaine. On le voit même dans le discours actuel de certains zoologues qui décrivent l'organisation d'une meute comme si c'était un clan humain ou un groupe familial humain. Il y a des modèles dans les structures de parenté qui concernent aussi bien les humains que les animaux. Ce qui compte, c'est la structure. On peut l'appliquer également aux plantes.
Le loup d'ordinaire est méchant, il se nourrit tout le temps d'enfants grassouillets ou alors il avale des petits porcelets. Mais quand il tombe sur des lapins, il ne peut pas n'en manger qu'un, sa moyenne se situe entre 20 et 280. Ce loup-là, je comprends pas, je sais pas qu'est-ce qu'il a. On dirait que c'est pas un loup, ni une chèvre, ni un chou. Loup, 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 ne vaut pas un clou. Ne vaut pas un clou, ni un copec, ça ne vaut rien du tout, un loup.
Loulou ne vaut pas un clou, c'était le générique du court-métrage d'animation que vous avez co-réalisé, Grégoire Solotareff, Loulou. On voudrait parler donc de la fonction comique aussi du loup qui a été endossée de manière contrastée à travers l'histoire. On pense évidemment au roman de Renard. On a déjà parlé d'Isengrin, Michel Pastoureau. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, qu'on se moque du loup et qu'il devient un personnage qu'on tourne autant en ridicule?
Il y a des exemples antérieurs, on en trouve dans la littérature romaine, on en trouve dans certaines fables, des loups qui échouent, des loups maladroits, des loups qui ne savent pas chasser, mais c'est quand même le roman de Renard qui enfonce le clou avec ce personnage d'Isengrin, un loup qui est ridicule, tellement qu'il devient sympathique, pitoyable. On a envie de le prendre en affection, ce pauvre Isengrin, trompé par tout le monde, par le goupil, par les autres animaux, par sa propre femme, Hersan. Et puis, ça permet d'atténuer peut-être le caractère vorace, cruel, affamé de ce personnage. Il y a une double interprétation qu'on peut faire. Soit il est ridicule pour conjurer ou éradiquer la peur éventuelle qu'on peut avoir des vrais loups. Soit au contraire, je pense que c'est la deuxième explication qui est la bonne. Nous sommes à la fin du XIIe, au début du XIIIe siècle, à une époque où, en fait, dans la vie des campagnes européennes, on n'a pas peur du loup. Tout va assez bien à cette époque. Les loups n'ont pas faim, ils ne s'approchent pas des villages. On tourne un peu en ridicule les animaux qui ont fait peur à des générations plus anciennes.
Et puis dans le roman de Renard, chaque animal est un archétype. Il représente à la fois son espèce, mais un type humain.
Oui, c'est comme dans les fables de La Fontaine, il y a même trois dimensions. Oui. Il y a l'animal et l'espèce qu'il représente. Il est aussi un type ou un archétype humain. Et puis il est un personnage avec son nom propre, ses caractères, son histoire, sa parenté. Donc on est à trois niveaux, et ce qui est fascinant, aussi bien dans le roman de Renard que dans les fables de La Fontaine, le lecteur n'est pas gêné. On est aux trois niveaux à la fois. Il y a des humains parmi ces histoires d'animaux, sont en contact permanent. Il y a des, pour nous, des invraisemblances. Le coq combat contre je ne sais plus quelle bête épouvantable et le terrasse. Ces animaux sont des barons du roi, le lion, le roi noble, et ils vont à cheval, donc chacun chevauche un cheval qui lui n'est plus qu'un instrument, mais pas un animal personnage du roman, et ainsi de suite. Et pourtant, le lecteur n'est absolument pas gêné.
Et cette société animale, c'est le modèle encore aujourd'hui de bien de séries, d'animations. Il suffit d'allumer une télévision pour voir ce que les enfants regardent. Une société animale où les espèces sont mélangées.
Oui, et ce qui est fascinant, c'est que le roman de Renard, comme les fables de La Fontaine, c'est de la littérature savante, extrêmement savante, à la fois dans la forme et dans le fond, et c'est devenu peu à peu aussi, du côté de la réception, des histoires, disons populaires, pour prendre un mot facile, et dont les supports et les médias d'aujourd'hui ont repris sous différentes formes les personnages. Donc on est entre le très savant et le très trivial.
Et à propos de loup trivial, il faut parler du loup qui fait rire. Alors, quand on pense au loup qui fait rire dans l'animation, et c'est bien présent hein, dans votre ouvrage, Michel Pastoureau, on pense évidemment à Tex Avery. On revient sur une dimension très pulsionnelle hein, du loup avec ce dessin animé, ces dessins animés.
Oui, ça n'est pas neuf. Hein. Donc le loup de Tex Avery apparaît au début des années 1940. Hein. C'est un loup lubrique, séducteur, qui parfois tombe sur plus lubrique que lui. Je me souviens d'une histoire qui ressemble au Chaperon Rouge, où le loup veut séduire une jeune fille, elle lui dit qu'elle doit aller chez sa grand-mère, le loup la devance pour aller chez la grand-mère, et puis la grand-mère se révèle encore plus lubrique que le loup. Il en a très peur et il doit se sauver pour ne pas être violé. Mais ce rapport entre la luxure, disons, et le loup, ça vient de très très loin, puisque lupa en latin,
on
c'est
l'a dit,
la
prostituée.
Et le loup passe parmi ces différents vices pour un animal, en effet, lubrique, luxurieux, et peut-être plus encore la louve que le mâle.
toute cette symbolique qui se transmet extraordinairement à travers le temps. Et pourtant, il y a quelque chose qui m'a semblé plus nouveau dans les représentations qu'on a du loup. Vous en avez parlé, hein, Michel Pastoureau. C'est toutes ces références à l'écologie, à la nature. Alors, pour l'illustrer, on a choisi un extrait d'un dessin animé qui date de 97, Princesse Mononoké.
J'espérais que tu pousserais de terribles gémissements. Je t'aurais alors dévoré pour te faire taire.
Quelle magnifique forêt. Okoto n'a pas encore chargé ?
Les sangliers sont en marche. La forêt dévastée pleure à leur passage. Mais tu ne peux pas entendre le sanglot des arbres. Moi, je demeure ici à écouter leur lente agonie. Ce cri réveille en moi la blessure de la balle. Et je rêve du jour où je pourrai enfin broyer de mes crocs la tête de la femme qui nous tue.
Moro, cette guerre a trop duré. Pourquoi n'y mets-tu pas un terme ? Vous pourriez vivre en paix avec les humains.
Les humains se rassemblent pour une dernière bataille. Leur feu bientôt viendra à nous brûler.
Mais que va-t-il arriver à San ? Comptes-tu la laisser mourir avec toi ?
Tu es bien un humain, Ashitaka. Égoïste, tu raisonnes comme un humain. San est ma fille, ma tribu est la sienne. Si la forêt meurt, elle mourra avec elle.
Rends-lui sa liberté. C'est une humaine, pas une louve.
Silence, gamin ! Comment oses-tu me parler de la sorte ? J'ai vu ses parents détruire ma forêt et jeter leur fillette dans mes pattes pour mieux fuir. Je n'ai pas pu la dévorer, je l'ai recueillie et élevée. Aujourd'hui, cette petite si laide et si jolie n'est ni humaine ni louve. Toi, est-ce que tu peux la sauver ?
Je ne sais pas. Mais nous pourrions vivre ensemble, elle et moi.
Que feriez-vous ensemble ? Vous combattriez les humains ?
Non ! La haine ne fait qu'engendrer la haine !
Ouais. Je crois que tu ne peux plus rien faire, petit. Car tu vas mourir dévoré par la tâche. Quitte cette forêt à l'aube ou c'est moi qui te dévorerai.
Princesse Mononoké, qui est donc un film de 1997, un film de Miyazaki, des studios Ghibli, bien connu, immense succès au Japon et dans le monde entier à l'époque. On peut signaler un film plus récent qui s'appelle Les Enfants Loups, qui est sorti en 2012, qui est aussi issu de l'animation japonaise. Et là, ces films parlent beaucoup, hein, la jeunesse d'aujourd'hui, beaucoup d'enfants les ont vus. C'est bien le rapport à la nature et la violence de l'homme envers la nature qui est dénoncé. Michel Pastoureau, ça vous
évoque ? Oui, c'est un rapport en général d'urbain à la nature et à la campagne. Dans la vie des campagnes, ça se passe un petit peu autrement. Et puis on peut souligner qu'en effet, l'homme est devenu très très violent envers ce que nous appelons la nature. Mais pendant des siècles, des millénaires, c'est la nature qui était très violente envers les êtres humains. On peut imaginer que l'homme se venge un petit peu, ou quelque chose comme ça. Il y a toujours une dimension au son ou d'engrais, ou une dimension un peu artificielle, à la fois dans les films, dans les séries télévisées, dans la littérature même, pour inverser les codes traditionnels ou ce qui s'est passé pendant des millénaires. C'est une façon peut-être de conjurer ou de réécrire les relations entre l'homme et la nature. Mais on trouve déjà dans la Bible des choses semblables. Par exemple, quand Isaïe annonce un temps où le loup et l'agneau seront amis et vivront sur le même territoire en paix, ça ne date pas d'hier, c'est d'avant-hier, si je puis dire.
Mais peut-être qu'on y arrive à ce temps, mais sur le dos de la nature qui s'est considérablement éloignée de l'homme, et c'est peut-être ce tournant historique qu'enregistrent ces œuvres de fiction.
Oui, moi je suis assez pessimiste, je connais mieux le cas de l'ours que celui du loup.
Un grand livre récent également publié au Seuil, L'histoire d'un roi déchu.
Voilà, l'histoire culturelle du loup. Quand on voit le sort réservé aux ours blancs, c'est dramatique. Et je pense que c'est définitif. Il n'y aura pas de retour en arrière. L'ours brun, c'est à peine mieux. Et puis des centaines d'autres espèces animales et végétales qu'on oublie parfois. Non, l'homme est extrêmement cruel envers la nature. Et je suis pas sûr que ça va s'inverser.
Alors, c'était L'ours, histoire d'un roi déchu. Et l'histoire culturelle du loup, c'est le livre que vous publiez maintenant. C'est intéressant de comparer le destin de ces deux animaux très présents dans le bestiaire enfantin contemporain. Parce que l'ours, contrairement au loup, lui, il est devenu totalement gentil et inoffensif. Il est terriblement anthropomorphisé d'ailleurs, puisqu'il n'a plus de museau, il n'a plus de bosse. Comment vous expliquez ces destins différents ?
Je pense qu'il y a dans chaque société ce que j'appelle un bestiaire central, c'est-à-dire un petit groupe d'animaux qui joue un rôle symbolique beaucoup plus fort que tous les autres. J'en distingue une dizaine, une douzaine pour les sociétés européennes, et l'ours, le loup en font partie. Ils sont même dans les trios de tête. La vedette, c'est le corbeau, bien sûr, qui occupe une place considérable. Et plus un animal joue un rôle fort dans le monde des symboles et de l'imaginaire, plus dans les représentations, il s'éloigne de son aspect formel, véritable en quelque sorte. L'ours en peluche, il est très très loin de l'ours véritable, et pourtant c'est la vedette du bestiaire du joueur en peluche, avec des caractères anthropomorphes extrêmement marqués. Le cochon, qui joue un rôle considérable aussi dans l'imaginaire, quand un enfant dessine un cochon, ça n'a aucun rapport avec un vrai cochon, et pourtant on le reconnaît comme tel. Donc je crois que du point de vue plastique, je ne sais pas si Grégoire sera d'accord avec moi, mais plus un animal est fort dans les mentalités et l'imaginaire, plus ses formes tendent à s'éloigner de ses formes véritables.
Parce que tous ces animaux-là, on ne les a, pour la plupart d'entre nous, jamais vus, Grégoire Solotareff.
Mais en fait, c'est vrai que en ville, on voit pas beaucoup d'animaux sauvages. On les voit à la télévision. Et en fait, les enfants qui vivent à la campagne. Moi, j'ai vécu un an et demi, c'est rien du tout, à la campagne, et j'étais très proche des animaux parce qu'il y avait une ferme à côté, parce qu'il y avait la forêt à côté, etc. Et c'était très présent, et aussi parce que je quittais un pays où il y a pratiquement pas d'animaux sauvages, c'est le Liban, où tout a disparu depuis longtemps. Et donc, en arrivant en Bretagne, dans la campagne, il y avait plein de choses, plein d'animaux à la ferme, etc. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était la présence de ces animaux était quelque chose qui me fascinait. Littéralement. J'étais tout le temps attiré par ça. Et le dessin de ces animaux, pour se les approprier, on est obligé presque de les anthropomorphiser. Et surtout, le loup qui se met debout a tout de suite une prestance importante. C'est peut-être pour ça que c'était le roi des animaux aussi, à l'époque.
Le loup ?
L'ours.
On va quand même revenir au loup, puisque c'est le thème de cette émission. Grégoire Solotareff, en Bretagne, vous n'avez pas vu de loup. Non. Alors, quel modèle avez-vous pris pour le dessiner, ce loup ?
Le chien loup. Ce qu'on appelle le chien loup, le berger allemand, le chien qui ressemble le plus au loup. C'est vrai que je trouve qu'on voit beaucoup moins de bergers allemands qu'autrefois. C'est un chien qui a un peu disparu, je trouve aussi. Mais le loup, c'est d'abord, je vous ai dit, c'est La Fontaine, et c'est ce personnage solitaire, solitaire dans l'esprit, qui n'est pas en réalité forcément, mais.
Elle est très scolaire, cette persistance du loup, j'y pense, quand on parle de La Fontaine. Mais Grégoire Solotareff, vous êtes étudié dans les maternelles. On fait des dessins de votre loup. À la maternelle, on travaille. En tout cas, on lit aussi vos livres et on en parle avec les enfants. Et finalement, c'est l'école aussi qui se trouve être le lieu où on véhicule cette culture, cette histoire des symboles. symbole, Michel Pastoureau.
Oui, les animaux ont des vertus pédagogiques, donc l'école s'en est aperçue très très tôt. Elle a contribué en effet à, détacher un certain nombre d'animaux vedettes de leur réalité, en passant par la fable, en passant par les contes, en passant par les dessins d'enfants aussi, et les déguisements, et les marionnettes, et ainsi de suite. Et le loup est une des vedettes de cette façon de faire. Je pense qu'il faut s'en réjouir et pas du tout y être hostile. Et les enfants sont extrêmement sensibles. Moi qui suis historien des animaux, ça m'arrive d'aller de temps en temps parler dans des écoles primaires. Les enfants ont entre 6 et 10 ans et ça marche à tous les coups. Hein.
Est-ce que les enfants sont étonnés de voir à quel point le rapport à ces animaux a pu être différent, même si c'est vrai qu'on raconte toujours l'histoire du petit chaperon rouge, une histoire plus que millénaire. Est-ce que, quand vous leur parlez, ils sont surpris d'entendre
Ce qui me frappe, moi qui suis enseignant, c'est qu'ils ne sont pas surpris, justement, comme si tout ça était tout à fait naturel. Ils sont très réceptifs. Ils ont eux-mêmes des histoires qu'ils m'apprennent, en quelque sorte. Et quand je leur demande s'ils peuvent associer un animal et une idée ou plusieurs idées, ce qui sort collectivement en général, c'est exactement les idées que véhicule l'histoire symbolique depuis des siècles et des siècles, comme si tout cela venait de très très loin et absolument inéradicable. Donc on vit encore sur un stock de significations, de connotations, qui est à peu près le même qu'au Moyen-Âge et même que de l'Antiquité romaine. Donc notre modernité, elle est relative.
Et dernière question, Michel Pastoureau, aujourd'hui, il y a encore des débats sur l'enseignement de l'histoire. Est-ce que pour vous, cette histoire culturelle, cette histoire des symboles, elle doit être présente dans les programmes et est-ce que ça peut être présent, comme vous le disiez, dès l'école élémentaire ?
Oui, moi je suis historien, j'ai toujours aimé l'histoire, donc je me réjouis que à l'université, en tout cas, l'histoire des mentalités, l'histoire des sensibilités, l'histoire de l'imaginaire ait trouvé une place, et même une place importante. Ça n'était pas le cas quand moi j'étais étudiant, je faisais rire tout le monde. Moi, quand j'étais jeune chercheur, avec mes histoires d'animaux, des histoires de couleurs, c'était de la petite histoire, ça c'était indigne de l'histoire savante.
Mais c'est aussi l'histoire des gens, du peuple.
Oui, mais j'en étais convaincu, mais tout le monde n'en était pas convaincu, donc les choses se sont améliorées, et je pense que ça doit commencer beaucoup plus tôt. Cela dit, je pense aussi qu'avoir une idée assez solide, non pas des dates, mais quand même de la chronologie et de la façon dont les choses s'enchaînent dans les histoires, c'est indispensable. Il faut peut-être commencer par là pour justement ensuite passer à l'histoire des sensibilités, l'histoire des mentalités. Si on ignore tout de la façon dont s'emboîtent les différentes périodes, comme j'ai encore des étudiants qui, 5 ans après le bac, se demandent si Louis XIV, c'est avant ou après la Révolution. Donc, ça devient vertigineux. Mais je crois que c'est encore pire pour la géographie, malheureusement, que pour l'histoire.
Et des repères historiques, il y en a beaucoup dans votre histoire culturelle du loup, Michel Pastoureau, publié au Seuil pour les ouvrages de Grégoire Solotareff. C'est à l'École des loisirs. On passe à la toute dernière partie de l'émission, la leçon de choses. Ferhat Alani est journaliste, il est écrivain, c'est un enfant issu d'une double culture et c'est un voyage dans le pays dont ses parents sont originaires qui va changer sa vie. Écoutez-le.
Je suis né à Paris. Je suis allé à l'école française et à la maison, la culture irakienne ne débordait pas. C'est-à-dire que mes parents m'ont dit très clairement d'où je venais, d'un pays qui s'appelle l'Irak, mais sans non plus m'inonder d'informations et de détails sur le pays. Donc j'ai quand même grandi avec cette conscience d'être un enfant de double culture, donc à la fois très français et en même temps conscient de ça, et donc j'étais très curieux, et en même temps assez taiseux sur la question, parce que c'était quelque chose déjà à la maison de Tabou. Pourquoi ? Parce que l'Irak était en guerre contre l'Iran. Mon père était un opposant politique à Saddam Hussein et je savais déjà, enfant, que c'était un tabou et qu'il ne fallait pas prononcer son nom à la maison.
Et étiez-vous heureux, vous, à ce moment-là, lorsqu'il vous a annoncé qu'il était temps de retourner pour l'été, pour les vacances d'été, visiter ce pays d'origine, et pressentiez-vous déjà que ce voyage allait changer votre vie ?
Alors j'étais très heureux de découvrir l'Irak à cette époque parce que non seulement j'étais silencieux et taiseux, mais j'étais aussi en mal de famille. En France, j'ai une petite sœur et mes parents, et puis nous n'avions ni cousins, ni tantes, ni oncles, et je voyais mes amis aller en week-end ou en province à la rencontre de leur famille. Et donc il m'est arrivé plusieurs fois de poser la question à mon père. Une question simple, est-ce que nous avons une famille ? Et un jour, mon père, attristé par cette question, a pris une feuille blanche et a commencé à écrire sans rien me dire. J'ai vu des dizaines et des dizaines de noms, une centaine au final, et à la fin, il m'a tendu la feuille, il m'a dit « c'est ça ta famille ». Et là, j'ai découvert des prénoms d'hommes et de femmes. J'ai pris conscience ce jour-là que j'avais une immense famille. Et lorsque mon père m'a annoncé que nous allions pouvoir enfin voir l'Irak, eh ben, j'étais d'abord excité par l'idée de rencontrer cette immense famille.
On est autour de la guerre du Golfe, de ces années-là, au début des années 90. Alors la violence, c'est votre oncle qui vous prête son pistolet, ce sont les bonbons qui sont interdits, car importés des États-Unis, ce sont les hôpitaux qui sont dans un état épouvantable. Alors comment est-ce que vous avez vécu cette violence ? Je veux dire, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur ?
J'ai d'abord été ébahi en fait par le pays. Moi j'avais beaucoup de clichés en tête sur l'Irak, Ali Baba, les chameaux, les dunes de sable, et en fait je découvre un aéroport ultra moderne construit par les Français, des autoroutes goudronnées, des luminaires, des voitures japonaises et américaines. Donc ça c'est la première découverte. Et ensuite lorsque je vais à Fallujah, qui est un petit peu ma Normandie quand je suis en France, je découvre un autre Irak avec des oncles très aimants mais qui ont du mal à calmer mon ennui. Et donc quand je demande s'il y a des jouets, on me répond non, mais les armes circulent. Et là, j'ai le droit de me balader à Fallujah avec un véritable pistolet déchargé, je le précise, à la ceinture. Puis mes oncles s'amusaient le soir à démonter ou à dévisser les balles des revolvers pour me faire une sorte de feu d'artifice local avec des allumettes. Enfin bon, j'ai eu le droit à un spectacle.
Un grand honneur. Hein.
Un grand honneur pour moi, mais quand même à partir d'armes létales, réelles et létales. Oui.
Mais vous aviez peur ? Ça vous dégoûtait ou ça vous fascinait hein ?
Mais j'avais 9 ans, donc moi j'étais fasciné.
Oui, il y a aussi une scène très marquante au sein du livre. C'est lorsque Riyad vous présente aux enfants du coin, en fait, aux petits voisins, et que vous portez ce jour-là un t-shirt Nike et des Reebok aux pieds. Et vous dites, cette scène va me marquer à vie. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là, Ferhat ?
Alors ce jour-là, c'est le tournant pour moi. À l'époque, j'ai 12 ans et je porte aux pieds les baskets que tous les enfants du monde aimeraient avoir. Elles s'appellent les Reebok Pump. Et je les ai aux pieds. Elles coûtent cher et je les avais méritées parce que j'avais eu de bonnes notes à l'école. J'arrive en Irak sous embargo. Le blocus était quand même implacable à ce moment-là, très, très difficile. Et là, l'entourage, pas du tout agressif, vient vers moi, me pose des questions sur la France. Et d'un coup, effectivement, les regards se tournent vers mon t-shirt Nike et Reebok Pump. Et le plus âgé d'entre eux me propose d'échanger sa voiture contre mes chaussures.
Oui, c'est ça, il vous dit les clés de ma voiture contre tes Reebok Pump.
Et donc, à ce moment-là, moi, je crois à une blague. Et je lui dis que je n'ai que 12 ans. Et je vois que cette personne insiste et que cette personne est très sérieuse. Ouais. Et donc là, c'est un choc pour moi. Me rendre compte, si vous voulez, du privilège que j'ai d'être en France. Et j'ai l'impression d'avoir encore aujourd'hui une dette envers l'Irak et ma famille par cette ouverture, par cette chaleur humaine qu'ils m'ont apporté quand j'étais enfant et ensuite adolescent. Et quelque part, aujourd'hui, j'ai envie de leur rendre hommage en racontant, en continuant à raconter les histoires irakiennes.
Et ces histoires irakiennes sont racontées dans Le Parfum d'Irak de Ferhat Alani, un livre à ne pas manquer, et c'est publié aux éditions Nova Arte. Les références des ouvrages et articles cités dans l'émission seront à la page d'être et savoir sur franceculture.fr et même les références des films d'animation. On remercie toute l'équipe. Élise Leu était à la prise de son. Somanina réalise cette émission et Avril Ventura m'aide beaucoup à la préparer. Vous retrouvez Être et savoir et la leçon de choses dimanche prochain sur les ondes ou à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, n'importe quel jour en podcast. À très bientôt et bonne soirée à tous sur France Culture.